Lizzie présente Apérougon de Colm McCann. Lu par Cachou Kirsch et Michelangelo Marquez avec la participation de Franck Daquin et Simon Duprez.
À Sally. Souvent, on peut voir un dirigeable blanc s'élever au-dessus de Jérusalem et flotter dans le ciel, disparaître, puis remonter, disparaître. Depuis les collines de Bejala, à quelques kilomètres de là, le dirigeable banalisé ressemble à un petit nuage, à une papule blanche et molle, à un œstre. De temps en temps, des oiseaux s'y perchent, font du stop, dérivent paresseusement sur 2 ou 3 kilomètres avant de redécoller. Un rossignol prenant du bon temps sur le dos d'un aigle. Le ballon dirigeable, surnommé Fat Boy 2 par son équipage israélien et les techniciens radar, plane en général à une altitude d'environ 1000 pieds. Il est en Kevlar et en aluminium. Une cabine en verre est fixée à sa base. La salle de 13 hommes est équipée d'une série d'ordinateurs et de caméras infrarouges assez puissantes pour repérer et identifier les chiffres et les couleurs de n'importe quelle plaque d'immatriculation sur l'autoroute, même celle qui passe à toute vitesse.
La plaque d'immatriculation de Rami est jaune.
Il jette un coup d'œil sur l'horloge de sa moto, puis sur sa montre. Un instant de perplexité. Une heure de différence. L'heure d'été. Régler la montre est chose facile, mais il sait que la journée en sera affectée. Chaque année, c'est la même chose. Pendant quelques jours au moins, Israël et Palestine ont une heure de décalage. En attendant, il n'y a rien à faire. Inutile de rentrer chez soi. Il pourrait tuer le temps en restant un peu plus longtemps sur l'autoroute, ou emprunter certaines routes secondaires dans les vallées, se trouver une petite portion de route où il pourrait faire crasher sa moto, mettre un peu de peps dans sa journée. Il repasse en quatrième, l'œil rivé sur l'aiguille rouge du compte-tour. Il dépasse un 18 roues, puis se remet tranquillement en cinquième.
Quand elle est tirée d'un tube métallique à l'extrémité d'un M16, une balle en caoutchouc quitte le canon du fusil à plus de 160 km/h. Les balles sont assez grosses pour être vues, mais trop rapides pour être évitées. Elles furent étrennées en Irlande du Nord, où les Britanniques les surnommaient les casse-genoux. Elles étaient censées être tirées vers le sol, puis rebondir et atteindre les jambes des émeutiers.
La balle qui tua Abir parcourut l'air sur 15 mètres avant de percuter l'arrière de sa tête, broyant les os du crâne comme ceux d'un petit ortolan. Elle était allée à l'épicerie, acheter des bonbons.
Pour 2 shekels, Abir aurait pu s'offrir un bracelet sur lequel il était inscrit « Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément ». Au lieu de ça, elle acheta 2 Iswarytm Labesse, des bonbons durs roses, oranges, jaunes et bleu clair, enfilés sur une ficelle à la manière d'un bracelet. Elle fit glisser les 2 shekels sur le comptoir jusqu'à la paume de la marchande qui sortit les bracelets d'un grand bocal en verre. Pendant qu'elles avançaient vers les portes de l'école, Abir donna le 2e bracelet à sa sœur Harin.
Chaque jour, depuis qu'Abir a été tué, Bassam va à la mosquée dans l'heure qui précède le lever du soleil pour dire les prières surérogatoires d'avant l'aurore. À 48 ans, il se déplace dans l'obscurité en boitant légèrement. Une cigarette au creux de la main. Il est mince, élancé, affûté. Son boitement est l'empreinte qu'il laisse sur le monde. Sans cela, il pourrait presque passer inaperçu. Cependant, derrière la mauvaise jambe, se dissimule une agilité et une vigueur surprenantes, comme s'il pouvait à tout instant se départir de son boitement et l'abandonner derrière lui. Dehors, il laisse tomber sa cigarette sur l'allée, l'écrase sous ses baskets. Seul au monde, il lisse sa chemise blanche avec le bas de sa paume, monte les marches, ôte ses chaussures, entre du pied droit, s'agenouille au fond de l'entrée et s'incline devant son Dieu illimité. Il prie pour sa femme, pour ses 5 enfants, pour le souvenir d'Abir. Allah, épargne-nous des horreurs, qu'elles soient visibles ou cachées. Une par une, les perles de prière glissent lentement de ses doigts vers l'autre côté de sa main. Quand le premier soleil s'agrippe aux fenêtres, Un petit ray d'ombre tricote des mailles sur les marches en pierre. Bassam nettoie le sol avec un balai en paille et déroule les tapis qui sont posés debout, cylindriques, contre le mur oriental. L'odeur de charbon et de chanvre provient de l'extérieur. Le ronronnement de la circulation qui s'anime, le réconfort du muezzin, l'aboiement des chiens errants. Bassam progresse méthodiquement le long de l'entrée. Il couvre tout le sol de tapis, suivi des bonnets et des chapelets pour la première des prières du jour.
Petite ville de l'entre-deux, Anata s'apparente à un curieux archipel urbain. Une ville palestinienne en Cisjordanie, sous occupation israélienne, au sein du gouvernorat de Jérusalem. Elle est presque totalement cernée par le mur de séparation. Quelques belles demeures sont juchées au sommet des collines, pierres blanches, colonnes de marbre, grandes voûtes, hautes fenêtres, mais elles laissent vite place, en bas, au chaos. La descente est raide et abrupte. Les paraboles poussent sur les toits comme des champignons. Les pigeons crient dans des cages. Le linge claque sur des cordes tendues entre les appartements. Des garçons torse nus à vélo louvoient entre les nids de poules. Au pied des collines, ils circulent au milieu des bennes dégueulant d'ordures et des déchets entassés. Il y a beaucoup de circulation dans les rues, mais pas de feu rouge. Du néon partout, magasins de pneus, boulangeries, stands de réparateurs de portables. Les hommes feignent la nonchalance dans l'ombre. Des nuages de fumée de cigarettes planent au-dessus d'eux. Les femmes pressent le pas sous leur hijab. Des carcasses d'agneaux esselés sont pendues à des crochets d'acier devant les boucheries. De la musique pop s'échappe des haut-parleurs. Partout, des morceaux de gravats. La ville est adossée au camp de réfugiés de Choufat. Choufat se construit vers le haut, immeuble après immeuble. Nulle part d'autre où aller que le ciel. S'il est facile d'entrer dans le camp, il suffit pour cela de franchir le tourniquet en métal au checkpoint, il est plus compliqué d'en sortir. Pour aller à Jérusalem, une carte d'identité ou une autorisation est nécessaire. Pour rejoindre le reste de la Cisjordanie, ce que, comme Bassam, vous devez faire si vous avez une plaque d'immatriculation verte, il n'y a pour seule issue qu'une route défoncée.
Un poumon qui se rétracte.
Figurez-vous les choses ainsi. Vous êtes à Anata, à l'arrière d'un taxi, avec une jeune fille dans vos bras. Elle vient de prendre une balle en caoutchouc à l'arrière de la tête. Vous vous rendez à l'hôpital. Le taxi est bloqué au milieu de la circulation. La route qui passe par le checkpoint de Jérusalem est fermée. Au mieux, vous serez arrêté si vous tentez de traverser illégalement. Au pire, le chauffeur et vous serez abattus pendant que vous transporterez l'enfant abattu. Vous baissez les yeux. L'enfant respire encore. Le chauffeur pose la main sur le klaxon. La voiture derrière vous klaxonne. La voiture devant vous s'y met aussi. Le bruit redouble et redouble encore. Vous regardez par la vitre. Votre voiture longe au pas une montagne d'ordures. Des sacs en plastique claquent dans le vent. Vous n'allez nulle part. La chaleur est écrasante. Une goutte de sueur coule de votre menton sur le siège en plastique. Le chauffeur klaxonne encore. Le ciel est bleu avec des rubans de nuages déchirés. Quand la voiture avance, sa roue avant tombe dans un énième nid de poules. Les nuages, pensez-vous, sont ceux qui se déplacent le plus rapidement autour de vous. Puis il y a du mouvement. Deux hélicoptères tournoient dans le bleu. Vous aimeriez descendre et transporter l'enfant fracassé dans vos bras. Mais vous devez lui soutenir la tête et essayer de ne pas bouger, tandis que rien d'autre au sol ne bouge non plus.
Le Jérémie de la Bible, également appelé le prophète pleureur, choisi par Dieu pour prévenir des désastres imminents, est censé avoir vu le jour dans l'antique Anata. On trouve son portrait au plafond de la chapelle Sixtine de Rome, peint par Michel-Ange au début du XVIe siècle. Sur cette peinture, qui se trouve à côté de l'autel, près du fond de la chapelle, Jérémie est assis, barbu et maussade, vêtu d'une longue robe couleur saumon, le doigt posé en travers de sa bouche, les yeux baissés.
Encore à ce jour, Bassam est hanté par le bracelet de bonbons de sa fille. À l'hôpital local, il fut rejoint par le chauffeur de taxi et la commerçante qui avait fait le trajet à l'arrière avec Abir. La chaussure d'Abir avait été remise sur son pied, mais le bracelet de bonbons avait disparu. Il n'était pas dans sa main, pas à son poignet, pas dans ses poches.